Et peut-être cela m'intéresse parce que je sais qu'il s'agit de problèmes insolubles. Mais quant à des solutions immédiates, je n'ai aucune à offrir, même en matière littéraire.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Science Vagabonde, une émission qui part à la rencontre d'hommes et de femmes qui vous feront découvrir la science par des sentiers détournés et marginaux, loin des fades autoroutes du savoir. La science que vous côtoyez ici est une science culturelle, en variété, à la marge des sciences humaines et empiriques. Dans ce premier numéro, nous partons à la rencontre de Jorge Luis Borges, auteur argentin, né en 1899 et décédé en 1986. Après des études en Europe, entre autres activités littéraires, il est nommé directeur de la Bibliothèque nationale en Argentine en 1955. Du point de vue littéraire, on le connaît surtout pour ses nouvelles fantastiques, qui commencent à être connues en France dans le courant des années 60, notamment grâce à la traduction et à la publication de son recueil « Fiction » en 1951. Il connaît finalement une renommée internationale à partir des années 1961, à l'occasion de sa réception du prix international des éditeurs, qu'il partage d'ailleurs avec Beckett. Il se pose alors comme l'un des auteurs emblématiques qui permettent l'affirmation et la reconnaissance d'une littérature sud-américaine à échelle internationale. Il sera par ailleurs nommé plusieurs fois pour le prix Nobel de littérature, bien qu'il ne l'obtienne jamais. De lui, on retient un certain nombre de recueils, dont Fiction, que nous évoquions tout à l'heure, L'Aleph, publié en 1966, et Le Livre de Sable, en 1975. Trois recueils qui nous seront d'ailleurs assez utiles dans le cadre d'une étude sur les mathématiques dans l'œuvre de Borges. Alors pour aborder ces questions, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jérôme Germoni, maître de conférences à l'Université de Lyon 1 et directeur de la Maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon. Il est par ailleurs co-auteur avec Philippe Caldeiro de deux tomes d'histoire hédoniste de groupe et géométrie, récemment parus chez Calvage et Mounet. Le 6 janvier dernier, il donnait dans le cadre du séminaire de la détente mathématique un exposé sur les mathématiques chez Borges, à l'issue de quoi nous l'avons invité à prolonger la discussion dans notre studio. Jérôme Germoni, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour.
Bonjour Clémence, bonjour Rémi.
Bonjour.
Alors pourriez-vous commencer par nous dire ce qui vous a intéressé et attiré dans l'écriture de Borges et ce qui vous a poussé à venir en parler à l'ENS notamment ?
Ouh, ça remonte à loin. En fait, quand j'étais tout petit, déjà, disons, fin de l'adolescence, j'ai lu le recueil Fiction qui était au programme de classe préparatoire à l'époque et quelques autres nouvelles d'autres recueils, dont ceux que vous avez cités de l'Aleph et du Livre de Sable. Et ça m'avait beaucoup plu, mais après, j'ai essentiellement oublié un petit peu de quoi il s'agissait. Avec toutefois, quand même, quelques figures qui restaient en tête, comme celle de Founès, celle de Pierre Ménard, le thème du traître et du héros, enfin des choses dont on va ou pas reparler un petit peu plus tard. Donc c'était un petit peu enfoui quelque part au fond et de ma mémoire, jusqu'à une émission de Jean-Claude Amezen sur France Inter, qui a pris une citation de Founès pour expliquer le rôle de la mémoire, le principal rôle de la mémoire consistant à oublier. Et qui mettait en évidence que Founès, en fait, n'oubliant rien, eh bien, ne comprenait rien non plus. Et en y réfléchissant un petit peu, ça a fait écho à une activité mathématique qui consiste essentiellement à essayer d'oublier des détails pour avoir faire des paquets de choses, des concepts, et ainsi à... Réfléchissant donc à cette idée, ça a mis en évidence qu'il y avait des mathématiques, ou pas forcément des mathématiques explicites, mais parfois des constructions littéraires très proches de la pensée mathématique, et qu'au fond, en fait, ensuite, on continue à réfléchir et à lire un petit peu autour, à voir que la structure elle-même des contes et des nouvelles de Borges est très proche de celle de certains écrits mathématiques.
Borges s'est amplement inspiré de ses lectures mathématiques, disiez-vous dans votre conférence. Alors, est-ce que l'on pourrait penser qu'il faisait preuve d'une certaine érudition mathématique ?
En effet, en fait, vous avez dit parler d'érudition, et vraiment ça c'est une caractéristique qui se réfléchit, ou qui est un reflet de ce que l'on trouve chez Borges, qui est lui-même un grand érudit, et qui met dans sa littérature beaucoup de ses lectures. Et à travers Leibniz et Cantor, on a deux personnes qui ont respectivement modélisé et fait rentrer dans le cadre des mathématiques formalisées l'infiniment petit, avec Leibniz et le calcul infinitésimal. Il n'était pas tout seul, Newton a fait essentiellement la même chose en même temps. Et de Cantor qui, lui, a réussi à dire comment un ensemble pouvait être infini. Donc on a cet infiniment petit, cet infiniment grand. On trouve de nombreuses références chez Borges, chez Borges à Pascal, et qui, pour le coup, nous renvoie aux deux infinis, mais aussi à la sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part, même si probablement l'image n'est pas de Pascal lui-même. Dans des écrits, des entretiens, en fait, Borges fait référence à Russell et à Poincaré, ce qui nous conduit, en fait, à chaque fois qu'on a un auteur, et ça renvoie à un thème récurrent. Donc Russell est probablement connu pour ses écrits d'épistémologie. Et en fait, en mathématiques, c'est celui qui a inventé le paradoxe, ou découvert le paradoxe de l'ensemble de tous les ensembles, qui montre l'insuffisance de la théorie naïve des ensembles, et donc quelque chose que Borges a repris à très nombreuses reprises. Et enfin, Poincaré, qu'il cite en disant j'ai lu et même relu Poincaré. Alors, certains se sont demandé si c'était des articles techniques sur les bifurcations ou la théorie du chaos. Il est plus probable que ce soit simplement La science et l'hypothèse qui est paru au début du siècle et qui a été largement plus diffusé, notamment dans les milieux non mathématiques que cela. Néanmoins, ça fait toute une belle panoplie de mathématiciens de premier niveau, quoi. Oui, en fait, Carolina Ferrer, dans un article qui s'appelle « De la citation apocryphe à la théorie cachée », cite Borges dans un article de 1967. « Je ne dirais pas que je suis mathématicien ou un philosophe, mais je crois avoir trouvé dans les mathématiques et la philosophie des possibilités littéraires, et surtout des possibilités pour la littérature qui me passionne le plus, la littérature fantastique. » Donc de fait, les mathématiques servent comme un moteur de création pour la... Les mathématiques servent comme un moteur de création littéraire, d'évidence.
En ce qui concerne le paradoxe de tous les ensembles, peut-être pourriez-vous le détailler aux personnes comme moi-même qui n'y connaissent pas grand-chose.
Donc parler d'ensemble, c'est parler de collection, c'est la formalisation de l'idée de collection. Donc les objets mathématiques viennent rarement par un, s'il y a un seul objet d'un type, il n'est pas très intéressant. Du coup, on les met par paquets, et on fait des paquets de nombres, par exemple, les nombres entiers, les nombres naturels, les nombres réels, les fractions, les triangles, ou les coniques, tout ce qu'on veut, quoi. Et donc on fait des paquets de choses, et on appelle ça un ensemble. Et on a l'impression qu'on peut définir un ensemble de façon très simple en énonçant une propriété. Par exemple, il est facile de dire tous les littéraires qui veulent connaître Borges, ça fait visiblement un ensemble. En fait, ce que Russell a mis en évidence, c'est que cette façon de fabriquer des ensembles à partir d'une simple propriété, eh bien, conduisait à des paradoxes. Alors il avait une façon assez simple de populariser ça, simple mais un peu retorse. C'est une variation du paradoxe du menteur, en fait. Hein, vous savez, tous les crétois sont des menteurs, or je suis crétois, donc je suis un menteur, mais si... Alors du coup, la phrase que je viens de dire est fausse, mais si elle est fausse, du coup elle devient vraie. Enfin bref, donc c'est... La version de Russell du paradoxe du menteur est de considérer une ville où tous les hommes se rasent, et soit ils se rasent eux-mêmes, soit ils se font appel à un barbier. Qui rase le barbier ? Alors lui, il ne peut pas simultanément se raser et ne pas se raser, d'où le paradoxe. Et donc Russell a essentiellement mis cette impossibilité de faire de la théorie naïve des ensembles, ce qui a conduit à une crise des fondements des mathématiques au début du XXe siècle, qui a été résolue et a conduit à un grand succès, mené pendant 10 ans, 20 ans, jusqu'à la théorie beaucoup plus sophistiquée de Zermelo et Frankel, qui est encore essentiellement utilisée de nos jours.
Le seul poste rémunéré fut celui de la secrétaire Nora Erfjord, qui n'avait pas d'autre moyen d'existence et dont le travail était écrasant. Créer une organisation qui engloba la planète n'était pas une mince entreprise. On se livrait à un échange intense de lettres et même de télégrammes. Des adhésions arrivaient du Pérou, du Danemark et de l'Hindoustan. Un Bolivien signala que sa patrie manquait de tout accès à la mer et que cette regrettable carence devait faire l'objet d'un des premiers débats. Twirl,
qui était doué d'une brillante intelligence, fit observer que le Congrès posait avant toute chose un problème d'ordre philosophique. Jeter les bases d'une assemblée qui représentât tous les hommes revenait à vouloir déterminer le nombre exact des archétypes platoniciens, énigme qui, depuis des siècles, laisse perplexes les penseurs du monde entier. Il fit remarquer que, sans aller plus loin, Don Alejandro Glencoe pouvait représenter non seulement les propriétaires, mais encore les Uruguayens, et pourquoi pas les grands précurseurs ou les hommes à barbe rousse et tous ceux qui s'asseyent dans un fauteuil. Nora Efjord était norvégienne. Représenterait-elle les secrétaires, les norvégiennes ou simplement toutes les jolies femmes ? Suffirait-il d'un ingénieur pour représenter tous les ingénieurs, y compris ceux de Nouvelle-Zélande ?
Dans cet extrait de la nouvelle Le Congrès, c'est précisément ce paradoxe de l'ensemble de tous les ensembles qui est illustré.
Disons, on trouve là dans cette version-là une appropriation par Borges d'une structure mathématique, comme il y en a tant d'autres. Cette appropriation, on la retrouve dans la bibliothèque de Babel, dont probablement nous serons amenés à reparler un peu plus loin, sous la forme du catalogue de tous les catalogues qu'évoquait Clémence il y a quelques instants. C'est un des innombrables exemples d'intervention de concepts mathématiques dans l'œuvre de Borges, parmi lesquels on peut citer le concept d'infini, le retour infini, les fractions qui tendent vers zéro, l'autoréférence et la récursivité, les langages artificiels, le hasard et les singes de Huxley, les permutations, les systèmes de numération, le rasoir d'Occam, les ordinateurs dans une version peut-être un petit peu primitive, la sphère de Pascal, la ligne, le plan, les surfaces, la quatrième dimension, et puis quelques autres que je vous laisse le plaisir d'aller chercher dans les œuvres complètes. Donc ça, c'est une des caractéristiques, c'est d'avoir des références explicites, soit à des citations d'auteurs, de mathématiciens. On a cité déjà Russell, Cantor et quelques autres. Il y a aussi Cavalieri, un géomètre du XVIIe siècle, je crois, et puis quelques autres. Et des citations explicites de la géométrie, de l'algèbre, et puis des citations de structures qui viennent là comme ça, et qui semblent un petit peu parajoutées dans un texte qui est essentiellement littéraire.
Mais alors, est-ce que vous pensez que les textes de Borges s'adressent explicitement aux mathématiciens ? Les lire avec l'œil du mathématicien, c'est une chose, mais le message est-il explicite pour tout le monde ?
Je ne crois vraiment pas que Borges s'adressait aux mathématiciens. C'est pas que le mathématicien se trouve malheureux de lire Borges, mais visiblement, son ambition est tout autre. L'impression qu'on a quand on compare ses fictions, par exemple, à ses essais de critique littéraire, c'est que c'est essentiellement la même chose. La seule différence, c'est que dans un cas, il lit des vrais livres, et dans l'autre cas, il invente des livres et les critique, ce qui va beaucoup plus vite. Du coup, le public principal, c'est visiblement pas les mathématiciens. Et la force de ces récits, c'est justement que les concepts arrivent comme... n'arrivent pas du tout comme étant plaqués, oui, c'est ça, qu'ils arrivent très naturellement, enfin, naturellement, évidemment, modulo l'hypothèse que l'on est dans la littérature fantastique, quoi, et que des choses non naturelles arrivent naturellement, mais avec cette toute petite réserve, oui, c'est ça, c'est la puissance, c'est leur côté, oui, ça se déroule, et c'est pas quelque chose qui est plaqué.
Alors, peut-être pourrions-nous nous intéresser à une première structure récurrente chez Borges, déjà vue dans l'extrait du Congrès, cette obsession d'un tout. On la retrouve aussi dans les nouvelles Under et Le miroir et le masque, où des personnages sont en quête d'un mot parfait, d'une parole qui dirait tout ce qu'il y a à dire. Mais une littérature d'un seul mot, quelque part, c'est aussi la négation de la littérature.
Oui, c'est une tentation que d'autres ont eue. Je pense par exemple à même dans d'autres arts, comme la musique et les 4 minutes 33 secondes de John Cage, qui consiste à ne plus faire sonner une seule note, ou les monochromes depuis Malevich et ses successeurs. Peut-être le chef-d'œuvre inconnu qui est évoqué dans la nouvelle de Maupassant, qui consiste à faire un truc tellement parfait qu'il n'y a plus besoin de peindre quoi que ce soit après. Mais quand même, plutôt que le montrer à l'ensemble au monde, parce que ça va le bouleverser, on va le cacher dans un mur. Et donc ce genre de c'est une tentation qui est fréquente dans la littérature et les arts plus généralement. Et puis à l'envers, on a les auteurs qui renoncent à ça d'emblée et qui pensent que de toute façon, ils n'arriveront pas à cette concision absolue et qui préfèrent garder les étapes de leur intermédiaire de leur création littéraire. Alors du coup, ça conduit à des redites, mais bon, qui en est exempt ? En tout cas, cette tentation du résumé absolu, on la trouve, pour faire un pont avec ce qui se passe véritablement en mathématiques, dans un autre livre, Brazzaville Plage de William Boyd, qui raconte essentiellement l'histoire d'une spécialiste des grands singes, dont le mari est mathématicien, et il mène des recherches acharnées, il est vraiment très très malheureux, jusqu'à enfin pouvoir résumer le chaos en une seule formule. Et cette formule, c'est z carré plus c. Alors, les mathématiciens parmi nous comprennent de quoi il est question, et de fait, z carré plus c est une espèce de générateur de chaos, et c'est de là qu'on fait tous les fractales de Mandelbrot, de Julia, et des tas de choses très très belles et très très complexes, à partir d'une formule très très simple. Et cette idée d'une formule comme générateur de mathématiques ou de littérature est peut-être ce qui est caché dans ces paraboles et dans les mots qui résument toute la littérature. C'est-à-dire peut-être que c'est pas la négation de la littérature, mais peut-être la matrice universelle est absolument condensée de toute littérature ou de toute science.
Ce serait une expression absolue de la littérature, de ce que la littérature veut dire en général.
Ce serait le résumé de tout, c'est-à-dire à partir de quoi, en réfléchissant, on est conduit naturellement à écrire toutes les littératures possibles, tous les livres possibles.
Mais vous le dites vous-même, ce serait un résumé. Et justement, la littérature, est-ce que ce ne serait pas l'inverse du résumé ? Le fait d'agir toujours plus dans la singularité pour saisir vraiment l'essence de toute chose, mais de manière singulière.
Oui, on a l'impression que chaque roman, par exemple, raconte une histoire singulière. Sauf que, d'une part, pourquoi est-ce qu'en général on s'intéresse à un texte ou à un personnage ? C'est généralement précisément pour ce qu'il a d'universel et non pas pour ce qu'il a de singulier. Ou peut-être pas systématiquement, en tout cas quelque chose de récurrent. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au Quichotte ? C'est parce qu'il parle de l'honneur, il parle de la misère humaine, de la société espagnole du XVIIe siècle, mais plus généralement de la crise de n'importe quelle société, après tout. Quand on parle de Racine, Andromaque, c'est pas la femme grecque de l'époque de Troie, non, c'est l'archétype de la femme qui aime. Et du coup, on essaie, à travers la chose singulière, d'atteindre l'universel. Une deuxième raison qui me pousse à ne pas être trop d'accord à considérer la littérature comme l'étude de la singularité, c'est l'idée que la plupart des auteurs, et ça c'est vraiment particulièrement vrai chez Borges, ça se voit même si on n'a pas lu ce qu'il a lu, la plupart des auteurs sont d'abord des grands lecteurs. Et donc, il inclut dans ses œuvres la somme de ses lectures. Et, bon, évidemment, de façon transformée, réappropriée
à la Echo. Bibliothèque personnelle qu'il applique dans ses lectures.
Et du coup, le côté singulier d'un auteur n'apparaît que de façon très, très, très partielle, puisqu'il amène avec lui l'ensemble de la littérature qu'il a absorbée, en quelque sorte. Il y a une troisième raison qui fait que c'est un petit peu étonnant chez Borges, enfin un petit peu douteux de dire que Borges cherchait le singulier, c'est au contraire la tentation du générique. Le générique comme étant montrer un objet, non pas pour ce qu'il est dans sa singularité, mais plutôt parce qu'il est l'illustration d'un concept. En fait, il y a un récit très très amusant, enfin très très amusant, très saisissant en tout cas, qu'il raconte de ses vacances dans la campagne au large de Buenos Aires, où il était très content d'être dans la plaine et de voir de l'herbe et ce genre de choses, des chevaux et des hommes qui tuaient les moutons, etc. Mais sa félicité a atteint son comble lorsqu'il a découvert que c'était la pampa et que les hommes étaient des gauchos. Et là, il avait donc l'incarnation d'un concept. Et c'est donc le concept qui lui plaisait plus que la singularité du gaucho qu'il avait précisément en face de lui. Il aimait le gaucho comme catégorie, comme groupe de gens. Donc à cet égard, en mathématiques, on recherche également la singularité, mais étudier l'exemple générique, étudier l'exemple qui va illustrer, qui est aussi compliqué que n'importe quel autre exemple, qui résume toute la complexité d'une situation, c'est un procédé qui est assez intéressant.
À propos de cette question de la singularité, justement, écoutons un deuxième extrait issu du recueil « Fiction ».
La voix de Founès continuait à parler du fond de l'obscurité. Il me dit que vers 1886, il avait imaginé un système original de numérotation et qu'en très peu de jours, il avait dépassé le nombre 24 000. Il ne l'avait pas écrit, car ce qu'il avait pensé une seule fois ne pouvait plus s'effacer de sa mémoire. Il fut d'abord, je crois, conduit à cette recherche par le mécontentement que lui procura le fait que les 33 orientaux exigeaient deux signes et deux mots au lieu d'un seul mot et d'un seul signe. Il appliqua ensuite ce principe extravagant aux autres nombres. Au lieu de 7013, il disait par exemple Maxime Pérez. Au lieu de 7014, le chemin de fer. D'autres nombres étaient Louis Méliane Lafitour, Olimar, Soufre, Le Bas, La Baleine, Le Gaz, La Chaudière, Napoléon, Augustin de Védia. Au lieu de 500, il disait 9. Chaque mot avait un signe particulier, une sorte de marque. Les derniers étaient très compliqués. J'essayais de lui expliquer que cette rhapsodie de mots décousus était précisément le contraire d'un système de numérotation. Je lui dis que dire 365, c'est-à-dire 300, 6 dizaines, 5 unités. Analyse qui n'existe pas dans les nombres Le Nègre, Timothée ou Couverture de chair. Founès ne me comprit pas ou ne voulut pas me comprendre. Locke, au XVIIe siècle, postula et réprouva une langue impossible dans laquelle chaque chose individuelle, chaque pierre, chaque oiseau et chaque branche eut un nom propre. Founès projeta une fois une langue analogue, mais il la rejeta parce qu'elle lui semblait trop générale, trop ambiguë. En effet, non seulement Founès se rappelait chaque feuille de chaque arbre de chaque bois, mais chacune des fois qu'il l'avait vue ou imaginée.
Nous venons d'entendre un extrait de Founès ou la mémoire, qui pose de nombreuses questions et particulièrement sur le langage, ainsi que sur ce que vous disiez en introduction, le fait que comprendre, c'est en particulier oublier.
Ah oui, comprendre les choses, c'est les mettre ensemble, c'est oui. Tisser des parallèles, c'est faire des paquets. Oui, étymologiquement, subsumer, pareil. Et ça, c'est vraiment un des points où l'écho chez le mathématicien est le plus fort. C'est-à-dire que mais au fond, ça n'a rien de spécifiquement mathématique. Je veux dire, n'importe quelle personne qui est en train de réfléchir, quelle que soit sa discipline, est en train d'essayer de faire des paquets de choses.
Bien sûr.
Mais voilà, peut-être la spécificité des mathématiciens, c'est d'avoir une opération pour faire ceci, qui s'appelle le passage au quotient, les relations d'équivalence, c'est le passage au quotient. Et donc, on met ensemble et on rassemble des objets apparemment assez différents en ne gardant que ce qu'ils ont en commun, que un trait qu'ils ont en commun, qui peut changer quand on passe de... Et c'est un outil qui est fondamental pour au moins deux types d'opérations, qui sont d'une part, la construction de nouveaux objets. En fait, construire de nouveaux objets mathématiques, en général, on commence par faire un truc, une espèce de forêt innombrable de choses absolument insurmontables, et puis ensuite on fait des paquets dans ces choses, et là l'ordre apparaît, et on a construit un nouvel objet. Par exemple, non, je ne vais pas donner l'exemple, c'est rapidement un petit peu trop technique pour si on ne peut pas gesticuler devant un tableau ou quelque chose du genre. En tout cas, une autre fonction essentielle du passage au quotient et qui est caractéristique de toute activité cérébrale ou intellectuelle en tout cas, c'est la notion de classification, faire des paquets de choses parce que, voilà. Et du coup, pourquoi est-ce qu'au départ on veut désigner un mot? Pourquoi est-ce qu'on veut parler associer un signe chemin de fer, par exemple? On veut désigner par chemin de fer, ben, ça doit évoquer quelque chose, quoi. Et plusieurs choses, si possible, tous les trains et de toutes les époques et de tous les endroits. Donc, ce que l'on voit, c'est une préoccupation commune, en tout cas, entre le langage et les mathématiques, qui consiste à trouver une façon de faire des paquets et d'en parler de façon plus ou moins technique. On peut prendre le contre-pied de ça avec la bibliothèque de Babel, qui prend tous les mots et qui devient quelque chose d'absurde.
Justement, voici les premiers mots de cette célèbre nouvelle, parue dans le recueil Fiction.
L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec, au centre, de vastes puits d'aération, bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères, à raison de 5 par côté, couvrent tous les murs moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'une bibliothèque normalement constituée. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir, il y a 2 cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins fécaux. À proximité, passe l'escalier en colimaçon, qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ? Chacun des murs de chaque hexagone porte 5 étagères. Chaque étagère comprend 32 livres, tous de même format. Chaque livre a 410 pages, chaque page 40 lignes, et chaque ligne environ 80 caractères noirs. Un bibliothécaire de génie déduisit que la bibliothèque est totale et que ses étagères consignent toutes les combinaisons possibles des 20 et quelques symboles orthographiques, nombres, quoique très vastes, non infinis, c'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer dans toutes les langues. Tout. L'histoire minutieuse de l'avenir, les autobiographies des archanges, le catalogue fidèle de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers, la démonstration de la fausseté de ces catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable, l'évangile gnostique de Basilide, le commentaire de cet évangile, le commentaire du commentaire de cet évangile, le récit véridique de Tamor, la traduction de chaque livre en toutes les langues, les interpolations de chaque livre dans tous les livres.
Voilà, là on arrive à une autre négation du langage. Tout à l'heure nous avions un mot pour chaque concept que Founès rejetait parce qu'il trouvait que c'était ambigu, parce que chaque concept c'était une chose, ou chaque feuille de chaque arbre c'était bien, mais il fallait distinguer aussi chaque fois où il avait pensé à chaque feuille de chaque arbre. Donc c'était un petit peu trop ambigu. Et là nous avons une contradiction qui est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'on part du syntaxique, on exprime tout ce qu'il est possible, donc, et pourtant ben, on en arrive à être complètement incompréhensible. Un petit peu plus loin, Borges évoque ce livre qui est constitué d'une série infinie, ou presque infinie, de MCV, MCV, MCV. Ils étaient désespérés un petit peu de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose comme... est-ce que ça peut avoir un sens parce que la lettre qui est là est moins intéressante, a une influence sur la lettre suivante. Est-ce que le M que je vois là a été... probablement pas, quoi. Donc c'est une autre aporie du langage, c'est que dire tous les mots, c'est ne plus rien dire.
Et puis, comme vous dites, la description est en soi, dans la forme, là, assez désespérante, pour reprendre votre terme, parce que c'est vrai que pour le lecteur qui ouvre et qui, à la première page, trouve ce que vous avez cité à l'instant, on est vite débordé d'informations et on a du mal à se représenter ce que veut dire l'auteur. Moi, j'ai le souvenir un peu ému de ma première lecture de la bibliothèque de Babel. Et effectivement, mon premier réflexe pour m'accrocher à la lecture, parce qu'autrement j'aurais certainement lâché prise, a été de prendre une feuille et d'essayer de représenter une partie, bien sûr, de cette bibliothèque. Voilà. Donc oui, on voit également...
La bibliothèque est amusante parce que la description est à la fois extrêmement précise, 32 livres, tous de même format, 410 pages, et puis tout à coup, très approximative, environ 80 caractères noirs. Ah oui, mais alors du coup, de quoi est-ce qu'on parle ? Et en fait, vous parliez de la difficulté à vous représenter ce qu'est la bibliothèque avec les cellules, comment est-ce que s'agencent les cellules, et en fait, c'est pas possible de le faire de façon univoque. Et plusieurs auteurs se sont amusés à faire des dessins, et aucun n'est compatible intégralement avec la description qui est là. Alors, j'ai pas vu les dessins en question, mais c'est assez saisissant l'idée que on comprend pas exactement comment est-ce que les cellules... Ok, il y a, y a, y a, y a, il y a six pans, il y a deux pans ouverts, et puis de l'autre côté, comment est-ce que ça s'agence, comment est-ce qu'on monte, comment est-ce qu'on descend, où sont les escaliers, comment est-ce que ça se recolle si ça se recolle, bon, voilà. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est proprement vertigineux. Si on essaie de calculer le nombre de livres disponibles, je crois que c'est de l'ordre de 10 puissance 2 millions. 10 puissance 2 millions, ça ne tient pas dans l'univers. Mais ça ne tient pas dans un très grand nombre d'univers, en fait. Si on prend l'univers dans lequel nous vivons, qui est un petit peu microscopique, avec ses 10 puissance 70 particules dans l'univers visible, enfin, c'est 10 puissance 2 millions, j'ai pas de mots pour exprimer combien c'est dérisoire. Donc on a un objet littéraire qui est démesuré par rapport à la réalité, quoi. La réalité, vous pensez que quand vous regardez le ciel, c'est l'infiniment grand. Non, c'est microscopique par rapport à ce qu'il faudrait pour la bibliothèque de Babel. Donc votre désespoir, je pense qu'il est un petit peu voulu par l'auteur.
Et pourtant, cette structure a germé dans son cerveau et il a fallu qu'il s'imagine d'une certaine façon. C'est ça qui est intéressant aussi de remarquer.
Mm-hmm. Mais en plus, visiblement, il regrette. Enfin, il y a plusieurs fois écrit quelque chose comme le nombre, quoique très vaste, non infini, enfin, des réticences au fait que, ok, il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque de Babel, mais, ils font 410 pages, quoi. Ils sont tout petits. Hein. Après tout, on pourrait imaginer une bibliothèque avec 1000 pages et elle serait encore plus grande, bien sûr.
Autre chose intéressante concernant cette bibliothèque, sa structure géométrique récursive, presque fractale.
Alors, est-ce que tout ce qui est infini est fractal, c'est pas complètement évident? Par exemple, si on prend un cercle et qu'on tourne autour, on peut le faire une infinité de fois. Et il est possible que la bibliothèque de Babel ressemble plus à un cercle, évidemment, un analogue d'un cercle avec plusieurs dimensions, un tore tridimensionnel, comme on pourrait dire, ou quelque chose d'un peu plus compliqué. Quelque chose que l'on peut parcourir infiniment sans jamais atteindre le bord, en tout cas. Est-ce que c'est fractal? Ma foi, ça, je vous laisse la responsabilité de l'hypothèse. Donc, des structures récursives, effectivement, il y en a à foison chez Borges. La plus aboutie, en tout cas, celle que j'ai le plus claire dans ma tête, c'est l'Aleph, effectivement.
Et nous allons écouter tout de suite un extrait de cette nouvelle issue du recueil du même nom.
À la partie inférieure de la marche, vers la droite, je vis une petite sphère aux couleurs chatoyantes qui répandait un éclat presque insupportable. Je crus au début qu'elle tournait. Puis je compris que ce mouvement était une illusion produite par les spectacles vertigineux qu'elle renfermait. Le diamètre de l'Aleph devait être de 2 ou 3 centimètres, mais l'espace cosmique était là, sans diminution de volume. Chaque chose, la glace du miroir par exemple, équivalait à une infinité de choses, parce que je la voyais clairement de tous les points de l'univers. Je vis la mer populeuse, l'aube et le soir, les foules d'Amérique, une toile d'araignée argentée au centre d'une noire pyramide, un labyrinthe brisé, c'était Londres. Je vis des yeux tout proches, interminables, qui s'observaient en moi comme dans un miroir. Je vis tous les miroirs de la planète, et aucun ne me refléta. Je vis l'Aleph sous tous les angles. Je vis sur l'Aleph la terre, et sur la terre de nouveau l'Aleph, et sur l'Aleph la terre. Je vis mon visage et mes viscères, je vis ton visage, je le vertige et je pleurais, car mes yeux avaient vu cet objet secret et conjectural dont les hommes usurpent le nom, mais qu'aucun homme n'a regardé, l'inconcevable univers.
Voilà donc avec l'Aleph une nouvelle construction géométrique qui nous laisse totalement désemparés. Il y a également ce disque à une face dans une autre nouvelle.
Ben là, le mathématicien que je suis est dans la même position que le mathématicien que vous êtes, complètement désemparé.
C'est peut-être ici que la littérature dépasse justement le contenu strictement mathématique, où elle en fait quelque chose d'insaisissable, qui évoque peut-être le caractère fantastique des nouvelles et vient justement le renforcer.
Mais il y a dans fiction, on peut aller chercher la racine de facere, de faire. Un autre recueil de Borges qui s'appelle El Hacedor, le faiseur, qui a été traduit en français souvent par l'auteur, mais c'est vraiment une idée d'artisan, de fabricant. Et là, d'évidence, je retrouve le côté poétique de la mathématique. Poétique au sens, encore une fois, étymologique de la fabrication. Oui. C'est une vraie question de savoir si les objets mathématiques préexistent ou sont créés, mais ce qui est d'évidence, c'est que, ils ne sont pas donnés, en tout cas. C'est que quand on arrive à pouvoir parler d'un objet mathématique, il a été au moins recréé, même s'il est le reflet de quelque chose qui existe dans une caverne, enfin plutôt le reflet dans une caverne de quelque chose qui existe à l'extérieur. Ces objets mathématiques, oui, dépassent le. Enfin, oui, il y a un côté, une caractéristique commune à la création littéraire et l'activité mathématique, c'est justement ce côté créatif de fabrication. Et parfois, la taille des objets donne un petit peu le vertige. Andrew Wiles, qui a démontré le théorème de Fermat il y a quelques 20 ans maintenant, a cette métaphore de l'activité mathématique. C'est celui de se promener dans une pièce noire et de se heurter contre tous les meubles, et puis petit à petit s'habituer à leur disposition, et finalement un jour trouver l'interrupteur, l'allumer, et là tout est conforme à ce que l'on avait deviné en tâtonnant avant d'avoir la lumière. Alors, l'intérêt de cette métaphore, enfin, un des intérêts, c'est d'illustrer que tout commence par tout aboutit à une vision. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est commun entre la création littéraire, que je ne pratique pas du tout, et l'activité mathématique, c'est qu'on commence par avoir la vision de ce qui devrait être, et puis, sur le chemin, là, ça implique cette première étape, implique avec des mots comme la vision, l'imagination, la création et tout ce genre de registres. Et ensuite, il y a une étape où il faut ensuite arriver petit à petit à mettre en œuvre cette vision. Et là, c'est un peu plus laborieux par la force des choses. Et là, ça dépend un petit peu de la facilité que le mathématicien a à avoir vu la bonne chose ou avoir inventé quelque chose d'incohérent ou d'être très fort techniquement et d'avoir en plus eu la bonne idée et donc de démontrer très vite ce qu'il fait. J'imagine que le processus d'écriture, une fois qu'on sait ce que l'on veut écrire, est un petit peu analogue. C'est-à-dire qu'on commence par écrire, et puis ensuite on réécrit, et puis ensuite on recommence, et puis éventuellement ça continue.
Voilà, vous arrivez au même but avec les mêmes mots que moi. J'allais parler d'analogie entre éventuellement la recherche en mathématiques et la création littéraire, du moins le processus de création littéraire. Et c'est vrai qu'on ressent qu'il y a vraiment un parallèle à tracer entre les deux.
En tout cas, quand on parle de l'activité mathématique qui n'est pas celle que la plupart des élèves pratiquent, à savoir de l'apprentissage de techniques et la restitution de techniques. C'est-à-dire là, il s'agit de la mathématique qui se crée, quoi, des choses où on doit faire appel à son imagination. Même quitte à créer quelque chose qu'il a déjà été, hein, ça procure pas beaucoup moins de plaisir de retrouver telle belle construction ou tel beau théorème que de l'avoir vu. Mais il s'agit de création, oui.
À propos de création et de récréation, voici un extrait de la nouvelle, Pierre Ménard, auteur du Quichotte.
Cette œuvre, peut-être la plus significative de notre temps, se compose des chapitres 9 et 38 de la première partie du Don Quichotte et d'un fragment du chapitre 22. Je sais qu'une telle affirmation a tout l'air d'une absurdité. Justifier cette absurdité est le but principal de cette note. Ceux qui ont insinué que Ménard a consacré sa vie à écrire un Quichotte contemporain ont calomnié sa claire mémoire. Il ne voulait pas composer un autre Quichotte, ce qui est facile, mais LE Quichotte. Inutile d'ajouter qu'il n'envisagea jamais une transcription mécanique de l'original. Il ne se proposait pas de le copier. Son admirable ambition était de reproduire quelques pages qui coïncideraient mot à mot et ligne à ligne avec celles de Miguel de Cervantes. Comparer le Don Quichotte de Ménard à celui de Cervantes est une révélation. Celui-ci, par exemple, écrivit, Don Quichotte, première partie, chapitre 9, « La vérité, dont la mer est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » Rédigé au XVIIe siècle, rédigé par le génie ignorant Cervantes, cette énumération est un pur éloge rhétorique de l'histoire. Ménard écrit en revanche « La vérité, dont la mer est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » L'histoire, mère de la vérité. L'idée est stupéfiante. Ménard, contemporain de William James, ne définit pas l'histoire comme une recherche de la réalité, mais comme son origine.
Oui, ça c'est une des nouvelles qui m'avait le plus frappé et dont je me souvenais le mieux 20 ou 25 ans après. Curieusement, à la fin des fins, Borges trouve que la version de Pierre Ménard est beaucoup plus intéressante. En fait, malgré le fait que Ménard n'ait écrit que deux chapitres et demi à peu près, eh bien, il lui arrive de lire le Quichotte et d'imaginer qu'il est entièrement de Pierre Ménard. Et en fait, il arrive à retrouver le style de Pierre Ménard, dans même les chapitres qu'il n'a pas écrits. Bon, quel rapport avec les mathématiques, me direz-vous ? Eh bien, deux façons de considérer la même chose, c'est une activité qui est extrêmement fructueuse en mathématiques. Prenons un calcul. Faire un calcul, qu'est-ce que c'est, si ce n'est donner des noms différents au même objet ? Je commence, mettons un calcul simple, mettons 5 x 5. Eh bien, j'ai un premier nom qui est 5 x 5, et puis le nom auquel je veux aboutir qui est 25. Et de façon plus... Ok, 5 x 5 était peut-être un mauvais exemple pour l'exemple suivant, mettons 3 x 4. On veut montrer par exemple que 3 x 4, c'est la même chose que 4 x 3. Eh bien, pour cela, on peut se représenter un rectangle, et sur un rectangle où on aurait 4 lignes de 3 colonnes, et ce rectangle, on peut le considérer avec, comme une succession de lignes, de 3 lignes de 4, ou une succession de colonnes, de 4 lignes de 4 colonnes de 3. Et le fait que ce soit deux façons de compter les cases ou d'un tableau, du même tableau, de deux façons différentes, montre exactement que le produit dans un sens et dans l'autre est le même, alors que, eh bien, on n'a pas calculé le produit. Donc, on est en train de réussir à faire à démontrer quelque chose en considérant le même objet, qui est le tableau, et en le regardant soit par ligne, soit par colonne, et ce double regard sur un même objet constitue une activité proprement mathématique. Donc Pierre Ménard, à cet égard, considérer Pierre Ménard, résonne avec cette idée. Pourquoi est-ce que Founès est si intéressant ? C'est parce qu'il met en évidence que comprendre, c'est oublier des choses. Et par opposition, Pierre Ménard propose exactement l'inverse, et c'est aussi une activité mathématique. Consiste à dire prendre la même chose, le Quichotte, et le considérer comme deux objets différents, une production de Cervantes et une production de Pierre Ménard. Et donc, c'est une autre façon, à l'opposé de la précédente, de faire des mathématiques, de donner des noms différents à la même chose.
Oui, finalement, chez Borges, c'est bien une dynamique d'ensemble proprement mathématique que l'on observe.
Oui, oui, oui. Visiblement, les similitudes sont très profondes. Le fait est que y a les références explicites, oui, dont on a donné quelques exemples. On peut faire des analogies entre certains raisonnements et mathématiques et certaines constructions de Borges. Et en fait, même la construction même du conte est elle-même assez proche de la façon dont un texte mathématique ou scientifique pourrait être écrit. On part d'hypothèses, on dérive les conséquences. Dans la bibliothèque de Babel, chez Pierre Ménard, c'est évident. Et oui, il y a des points communs avec un article de mathématiques qui dépassent les références explicites aux mathématiques. Par exemple, la primauté donnée dans les récits de Borges au concept, par opposition, par exemple, à la psychologie des personnages dans un roman. Et le fait qu'on ait l'impression qu'il pense à l'Aleph et il fait de l'Aleph un objet littéraire à partir de là, quoi. Et à la fin, ce qui reste, c'est pas tant le style, si ce n'est ça, l'impression de concision du style, mais en fait, il reste quand même le concept tel qu'il a été partagé. Et ça, c'est quand même quelque chose de probablement extrêmement singulier. Et probablement une des raisons pour lesquelles les mathématiciens trouvent autant d'écho, ou plutôt Borges trouve autant d'écho chez les mathématiciens.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous, Jérôme Germoni, pour avoir accepté notre invitation ici à Transistor.
Et merci, c'est moi qui vous remercie de l'invitation.
Je rappelle que vous dirigez la Maison des mathématiques et de l'informatique de Lyon, qui œuvre pour la diffusion de la culture mathématique, et où se tiennent chaque semaine les séminaires de la détente mathématique, récréation mathématique accompagnée d'un goûter, où vous avez présenté ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui. C'est la fin de ce premier numéro de Science Vagabonde. Un grand merci à Antoinette pour la lecture des textes. La musique du générique est un extrait des Ruines circulaires de Carole Beffa, adaptation d'une nouvelle de Jorge Luis Borges. Science Vagabonde, une émission préparée par Clémence Large et Rémi Cerdan.